C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Oscar Wilde 1854-1900. Écrivain, irlandais, bourgeois, protestant de l'église d'Irlande, homosexuel marié à une femme. Œuvre, le portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, 1890 en revue, 1891 en volume. Première traduction française en 1895 par Albert Savine. Personnage, Dorian Gray. Adaptation, plusieurs films, le premier dès 1910 au Danemark, il est perdu, le plus récent en 2009, des pièces de théâtre, de danse, des bandes dessinées, des jeux vidéo. Un acteur nommé Dorian Gray joue dans le film Le Cri de Michelangelo Antonioni en 1957. Le portrait de Dorian Gray est peut-être le roman à la première page la plus mal écrite qui soit. Cette surcharge d'adjectifs, ce décor transformé en décorum, le puissant parfum des roses emplissait l'atelier et quand la brise d'été remuait parmi les arbres du jardin, la porte ouverte laissait entrer les lourds effluves du lilas, un cytise aux fleurs sucrées, colorées comme le miel, dont les rameaux frémissants semblaient à peine capables de soutenir le poids d'une aussi flamboyante beauté. Et d'où cela vient-il? De ce qu'Oscar Wilde décrit la nature, en l'occurrence le jardin du peintre Basil Hallward. Et Wilde, c'est l'antinature. On se doute bien que je ne mets aucun sous-entendu moral dans cette appellation, comme les ennemis de Wilde qui prétendaient que l'homosexualité est contre nature. Wilde est opposé à la nature en ce sens qu'il ne croit qu'à l'artifice, à la création artistique par opposition à l'informe créée. C'est l'Irlandais le moins amoureux de la nature que l'Irlande ait jamais créée. Bernard Shaw l'a traité de snob dublinois. It takes one to know one, comme on dit dans sa langue. Shaw était dublinois et pas moins snob que Wilde. Pour celui-ci, la nature est au mieux une tapisserie. Et c'est ce qu'est la première page de ce portrait de Dorian Gray, une tapisserie accrochée à l'entrée d'un des romans les plus londoniens qui soit. Londres des ateliers d'artistes, des salons et des bas-quartiers, où Dorian Gray va chuter dans le crime et la mort. Il y a chez Wilde un goût de la fatalité qui se remarque dans presque tous ses livres. Bien souvent, un de ses personnages est attiré par la fange, la chute, la catastrophe. Wilde a en partie provoqué la sienne par ses imprudences, la première consistant à avoir un génie rieur. La société n'excuse le génie que s'il a l'air pompeux. D'une certaine façon, Wilde savait. Je ne dirais pas qu'il voulait, mais il savait. Il savait ce qui l'attirait, il en supputait le risque. Dans le personnage de Dorian Gray, il a décrit le type physique d'homme qui l'attirait, celui d'Alfred Douglas, avant même qu'il ne le rencontre. Et là, au lieu de se nuire à lui-même comme Dorian Gray, c'est à Wilde que Douglas a nui. Dorian Gray tue l'auteur de son portrait, le peintre Basil Hallward. Alfred Douglas, par sa veulerie, ses caprices, sa perversion, a conduit à la chute de Wilde, lequel n'a plus jamais écrit ensuite, ce qui est bel et bien la mort d'un écrivain. Qui est Dorian Gray? Pour en parler, je reçois Anatole Tomczak, traducteur du portrait de Dorian Gray non censuré. Anatole Tomczak, à quoi ressemble physiquement Dorian Gray?
Dorian Gray est beau et Dorian Gray est jeune. Et ces deux caractéristiques physiques sont fondamentales puisqu'on peut dire en première analyse que le portrait de Dorian Gray est un livre sur la beauté et sur la jeunesse. En tant que personnage d'ailleurs, Dorian Gray vaut d'abord par sa qualité esthétique, par sa qualité plastique, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs vu que le titre du roman est le portrait de Dorian Gray. C'est par ce portrait qu'on rencontre Dorian pour la première fois, au premier chapitre, juste après la première page que vous décriviez. Et il est représenté dans un portrait grandeur nature, en pied, dans l'atelier du peintre Basil Hallward.
En même temps, vous dites c'est une histoire de jeunesse, mais ça n'est pas des gens si jeunes. Quel âge a Dorian Gray?
Alors, on sait que Dorian Gray n'est pas majeur, ce qui veut dire qu'il aurait à peu près environ 20 ans, si on prend pour référence la majorité à 21 ans qui était à peu près ça à l'époque de l'écriture du roman, enfin à l'époque où se passe le roman en Angleterre.
Gray, c'était un nom de famille courant. D'ailleurs, Wilde était ami avec un poète John Gray au moment où il écrivait son livre. Mais il a choisi un prénom très rare à l'époque et qu'il est resté, qui est un prénom grec. Alors, Dorian Gray, c'est un peu comme Ulysse Durand.
Dorian est évidemment contient une signification, en contient plusieurs. C'est une référence évidemment à la Grèce et à l'hellénisme qui était sur le plan esthétique une époque qui influençait beaucoup Wilde par l'intermédiaire du pré-raphaélisme et de ses figures comme Walter Pater qui faisait beaucoup référence à l'hellénisme et notamment d'ailleurs il y avait Walter Pater mais il y avait aussi John Addington Symonds et on sait que dans un des essais de critique d'ailleurs sur dans un des essais sur l'homosexualité de John Addington Symonds qui a été un des premiers en Angleterre à écrire dessus de manière positive, dirons-nous. Donc John Addington Symonds emploie l'expression Dorian Love pour en fait comme un nom euphémistique codé pour dire l'homosexualité. Il dit Greek love, il dit Dorian love, il dit aussi masculine love. Ça fait voilà partie de ces expressions qui montrent d'ailleurs à quel point Le portrait de Dorian Gray est un roman codé à plusieurs égards, notamment autour de la question de l'homosexualité.
Alors évidemment, les aventures de Dorian Gray sont une variation sur Faust, et pour les très rares qui ne connaîtraient pas le roman, Anatole Tomczak, dites-nous ce qui lui arrive.
Dorian Gray est un jeune homme absolument charmant d'apparence et aussi extrêmement bien né et qui vit une existence à peu près oisive et à peu près charmante en étant le modèle d'un peintre, Basil Hallward, peintre qui va développer pour son modèle un amour qui est extrêmement clair dès le début du roman. Pris de cet amour, il va peindre, donc Basil va peindre un portrait absolument merveilleux et Dorian va donc en reconnaissant ce portrait et en reconnaissant sa propre beauté à travers ce portrait se rendre compte que un jour lui n'aura plus les traits impeccables et gracieux que porte le personnage sur ce tableau puisque lui aura vieilli et en réalisant cela il fait le vœu effectivement dans un pacte Faustien, entre autres, il fait le vœu de lui ne jamais vieillir en apparence et d'échanger son vieillissement et sa dégradation avec le portrait.
Et ce qui se passe, c'est qu'il commet des actes dont la répercussion est que le portrait vieillit à sa place.
Le portrait vieillit à sa place et en même temps, c'est intéressant de voir que le vœu que formule Dorian est un vœu, tout ce qu'il y a de plus banal, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, mais Dorian est d'un point de vue psychologique plus proche de la simplicité et de la banalité que de la hauteur de vue, de la hauteur intellectuelle. Dorian fait un vœu, tout ce qu'il y a de plus banal, il dit « mais un jour je serai vieux, c'est terrible, je veux pas être vieux, je veux pas être moche ». D'ailleurs Dorian parle beaucoup sur le mode « je veux, je veux pas », comme un enfant capricieux qu'il est, il dit « mais je veux pas être moche, si seulement je pouvais rester aussi beau que le portrait ». En revanche, le de mécanique fantastique, diabolique qui se met en place malgré lui, et sans d'ailleurs que lui la comprenne vraiment, sans d'ailleurs que personne la comprenne vraiment, cette mécanique fait que le portrait va effectivement sans les dire, mais pas uniquement et seulement porter les traces du temps et les traces de la vieillesse, puisque l'action du portrait de Dorian Gray se passe sur 18 ans. D'ailleurs, à votre question, à quoi ressemble Dorian Gray, on aurait pu dire, il est intéressant de noter que Dorian Gray ressemble toujours à la même chose au début du roman et 18 ans plus tard. Et en tout cas, ce portrait se dégrade, portant plutôt les traces d'une dégradation morale, et pas seulement physique et pas seulement la vieillesse, puisque le portrait à la fin est d'une laideur immonde, pourrie, horrible, et c'est plus que seulement les marques de l'âge.
Alors on est souvent célibataire chez Wilde, et Dieu sait que le portrait de Dorian Gray est un roman de célibataire, à une exception près. Mais d'ailleurs, la femme disparaît assez vite. C'est l'actrice dont Dorian Gray devient amoureuse et il la trouve tellement mauvaise qu'ils en débarrassent. D'où suicide, d'où première atteinte au portrait à son portrait. Et on pourrait dire, avec les précautions évidemment qu'amène ce genre de généralisation, que si Faust est un hétérosexuel en ce qu'il veut garder la puissance, Dorian est bien gay en ce qu'il veut garder la jeunesse.
Dorian veut en effet garder la jeunesse vis-à-vis de l'actrice à laquelle vous faisiez référence, vis-à-vis de Sibyl. Il y a peut-être effectivement une concurrence de jeunesse et Dorian ne veut pas veut être le plus beau. Peut-être est-ce que c'est pour cela d'ailleurs qu'elle l'insupporte autant. Et Dorian veut garder la jeunesse, et peut-être aussi pour finir là, effectivement, la comparaison avec Faust, en tant que Faust, en tant que héros de la connaissance, donc Dorian veut lui connaître toutes les sensations, toutes les impressions, toutes les expériences. Donc lui, il a une soif de connaissance assez en ligne avec effectivement l'esthétisme et les figures comme Walter Pater, auquel Wilde se rattachait, qu'on a cité tout à l'heure.
Alors, on dit Faust, mais il y a aussi un Pygmalion dans ce livre. Vous venez d'évoquer son existence. C'est un personnage très important qui est Henry Wotton, Lord Henry, et qui est plutôt un Pygmalion. Et lui, qui est un homme de conversation, très brillant, très intelligent, décide d'une certaine façon de peupler le corps et le visage splendide, mais également vide, de Dorian Gray, d'idées à lui. Parce qu'au fond, Dorian Gray, c'est un vase.
C'est effectivement un vase et aussi une métaphore qui vient de Lord Henry que vous citiez. C'est un violon. Violon au sens, non pas forcément de la délicatesse, mais surtout au sens où il est extrêmement sensible, extrêmement manipulable. Et Lord Henry, il voit donc cet instrument prêt à être manipulé, à être informé, à être instruit par lui et par ses théories, et il veut en faire effectivement sa chose, sa marionnette. Et d'ailleurs, Lord Henry a cette passion dans la vie, c'est ce qu'il occupe, c'est ce qu'il aime le plus, c'est observer les autres, observer les comportements des autres, observer les personnalités des autres, et les voir effectivement agir et mésagir sous ses yeux.
Alors, on dit souvent que Lord Henry a une mauvaise influence sur Dorian Gray. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise influence, il n'y a que des esprits faibles. Et d'ailleurs, il a une phrase qui est juste un mot d'esprit, qu'il dit à Dorian, la seule façon de résister à la tentation est d'y céder. Et d'une certaine façon, Dorian, qui n'est pas l'intelligence même, croit que les bons mots sont la vie même, et en quelque sorte applique dans sa vie le bon mot de Lord Henry.
Oui, il applique pendant toute son existence ensuite, à partir de sa rencontre avec Lord Henry, il se met à quelques exceptions près à appliquer en fait une existence une existence faite de paradoxes, alors que, ne comprenant pas que Lord Henry, lui prononçant ses paradoxes, ne cherche aucunement à les appliquer à quelque chose d'aussi concret et d'aussi lourd qu'est la vie. Lord Henry veut vivre dans une espèce de fantaisie, de feu d'artifice, comme ça, de paradoxe, de formule. Et Dorian, lui, effectivement, les prend au pied de la lettre. Il se justifie à peu près à toutes les occasions, d'ailleurs, en citant des aphorismes de son maître. Par exemple, quand on s'étonne de ce qu'il épouse, de ce qu'il se fiancie, pardon, aussi vite avec donc Sybil Vane, la petite actrice médiocre dont il est amoureux, il répond « Je sais que c'est extrêmement soudain, mais les meilleures choses le sont. »
On pourrait dire que la conséquence du portrait de Dorian Gray est la ballade de la geôle de Reading, qui est le long poème que Wilde a écrit en prison, et où revient, comme une litanie, le vers suivant « Chaque homme tue la chose qu'il aime. » Et ce qu'aime Dorian, c'est lui-même. Et donc, il y a cette espèce de fatalité envers lui-même qu'il ne peut que mourir.
Dorian s'aime et il aime son image. Cela dit, c'est assez intéressant de voir qu'au début du roman, Dorian, donc découvrant pour la première fois son portrait, c'est un événement psychologique qui semble extrêmement important, qui est marqué comme tel, et Dorian donc semble découvrir sa propre beauté. Or, à ce qu'on sait et à ce que je sache, Dorian avait dû se croiser déjà son regard devant deux trois miroirs, et dans le monde dans lequel il évoluait déjà, le beau monde dans lequel il évoluait déjà, avait déjà dû lui dire plus d'une fois qu'il était absolument charmant.
Oui, donc, mais pardon de vous couper, oui. Mais ça c'est l'idée de Wilde lui-même, c'est-à-dire que pour Wilde, l'existence n'a de réalité qu'à travers la représentation artistique. C'est pas autre chose. Et donc, il l'applique à Dorian Gray aussi. Il pense même pas au fait que Dorian Gray ait pu avoir un miroir, s'être vu, avoir été dragué. Non, tout ça n'existe pas pour Wilde.
Oui, absolument. Effectivement, Dorian est obsédé par lui-même, par son image. Mais voilà, en tout cas, Dorian est curieusement à la fois dégoûté et en même temps fasciné, obsédé par lui-même, puisque dans tout le cycle de débauche dans lequel il va verser, il va à la fois être horrifié par ses propres actes et en même temps être incapable de continuer à aller consulter ce portrait qu'il garde en réserve. C'est d'ailleurs en fait la raison pour laquelle il ne s'en débarrasse pas plus tôt, ce qu'on pourrait se demander, mais enfin, ça y est, tu as la jeunesse, maintenant débarrasse-toi de cette croûte qui pourrit au grenier.
Nous allons maintenant entendre les Libertines avec Pete Doherty chanter The Narcissist. Ce ne sont que des narcissiques. Ne serait-il pas génial d'être Dorian Gray? Ce ne sont que des narcissiques. Oh, qu'y a-t-il de si génial à être Dorian Gray tous les jours? La chanson date de 2004. Professionally trendy, and it's blow a clapping song. There's life after work, and it can be such fun. They see I am models, and magazines are on the walls. They wanna be just like them, cause they're so cool. They're just narcissists. Oh, wouldn't it be nice to be Dorian Gray? Test for a day, they're just narcissists. Oh, it's so great to be Dorian Gray every day. Living in a looking glass as the beauty of life goes by. You're going to be so old. You're going to grow so old. Your skin's so cold. Anatole Tomczak, une chose me frappe, c'est que de la première publication du portrait de Dorian Gray, Wilde avait 35 ans, à sa chute, il en avait 40, il ne s'est passé que 5 ans. 5 ans pour faire tomber l'imprudent génie qu'il y avait en Oscar Wilde. Il faut d'abord dire que le portrait de Dorian Gray a été publié en deux fois.
Le portrait de Dorian Gray a été publié en deux fois, une première fois en magazine, un an avant sa parution, ensuite en volume. Donc en magazine, c'était en 1890, et l'année suivante, c'était donc en volume. Le magazine en question s'appelait le Leaping Cot, c'était un magazine donc mensuel littéraire anglo-américain. La première version donc du portrait de Dorian Gray est une version qui paradoxalement est à la fois plus courte que celle en volume que tout le monde connaît et qui en même temps est moins censurée. La version la moins censurée de toutes étant la version manuscrite que Wilde avait remis donc à cet éditeur du magazine américain, puisque l'éditeur avait lui-même censuré à l'insu de Wilde environ 500 mots.
Et qui est la version que vous avez traduite dans les Cahiers Rouges que j'ai l'honneur de diriger.
Absolument.
Et donc, cette revue, d'ailleurs, je voudrais spécifier ça, qui n'est pas tout peut-être si anodin, c'est que c'était un mensuel à dos carré, de couleur jaune, car c'était la mode des couvertures de livres et de revues à couleur jaune, et je pense bien sûr au Yellow Book, dont Wilde était assez proche. Et Wilde était assez connu, déjà, pour que son nom et le titre du portrait de Dorian Gray apparaissent en gros au-dessus du titre de la revue, et il en occupe près de 100 pages, les pages 3 à la page 100.
Oui, quand l'éditeur du magazine américain avait demandé à Wilde d'écrire un roman pour sa revue, il avait dîné en même temps avec donc deux des écrivains anglais qu'il admirait le plus, c'était Oscar Wilde et Arthur Conan Doyle. Et tous les deux ont promis à l'éditeur de lui livrer un roman pour sa revue. Conan Doyle a donné donc le signe des quatre, et Oscar Wilde lui a promis donc un roman, le portrait de Dorian Gray, celui qui ferait à la fois sa renommée et sa chute, son déshonneur, effectivement, cinq ans plus tard.
Alors, je crois qu'il y a dans la version publiée en volume un an après, je suis même sûr que des choses ont été supprimées, et par exemple une phrase supprimée qui est donc vous dans la version que vous avez traduite à propos des sorties nocturnes de Dorian Gray, un homme au visage étrange l'avait soudainement regardé dans les yeux, puis l'avait suivi à pas furtif, passant et repassant près de lui plusieurs fois. Voilà le genre de mention. Pas tout à fait explicite, mais pas tout à fait obscure non plus.
Absolument, qui en fait, mise bout à bout, tendent à augmenter, ou en tout cas à rendre encore plus explicite, la charge érotique et homo-érotique de Dorian Gray. Il y a aussi un peu plus loin l'assistant de l'homme qui tient la boutique de tableaux qui lui lance un regard aussi tout à fait lubrique et tout à fait ambigu. Et puis surtout le passage le plus significatif qui a été supprimé, c'est une tirade de Basile qui fait une sorte de déclaration d'amour.
Basile le peintre.
Basile le peintre qui fait une sorte de déclaration d'amour à Dorian et qui lui dit en fait je n'ai écoute voilà je vais te dire la vérité. je n'ai jamais aimé aucune femme, je ne me l'explique pas, je ne m'explique pas pourquoi. Et surtout, j'ai conçu pour toi des sentiments beaucoup plus tendres que ceux qu'un homme normalement devrait avoir pour un autre homme, pour un ami. Je suis fou de toi, je ne pense qu'à toi, je ne suis bien qu'avec toi. Et toute cette déclaration complètement éperdue a été supprimée donc dans la parution l'année suivante en volume.
Je crois qu'une chose qui n'est pas très importante, mais une chose a changé, c'est l'âge aussi de Dorian Gray.
C'est extrêmement intéressant, et d'ailleurs c'est cette analyse est faite par Ellman, donc le biographe Richard Ellman, donc le biographe voilà des grands biographes d'Oscar Wilde, qui effectivement remarque que donc il y a une année bascule dans le roman, c'est l'année donc des 38 ans dans le roman en volume 91 que tout le monde connaît. Dans la première version, Dorian Gray n'avait pas 38 ans au moment d'assassiner Basil, il avait 32 ans. Et Ellman remarque que 32 ans, c'est l'âge où Oscar Wilde lui-même a rencontré Robert Ross en 1886, et la rencontre de Wilde avec Ross marque en fait le début de sa première relation homosexuelle, et donc par ce fait son entrée dans une forme de d'illégalité, puisque l'homosexualité était à l'époque condamnée par la loi, comme en ferait les frais Oscar Wilde ensuite.
Je voudrais en profiter pour signaler, vous venez de mentionner quelqu'un pour qui j'ai la plus grande admiration, qui est Ross, et je voudrais redire pour la millième fois de ma vie, mais je le redirai 2000, qu'au moment du procès de Wilde, la seule personne à s'être, au moment où Wilde sortait accompagné, après sa condamnation, sortait accompagné par les policiers, Robert Ross s'est avancé, a fait un pas en avant, a soulevé et a baissé son chapeau devant Oscar Wilde, ce qui était assez courageux et très beau. Dans la version en volume, Oscar Wilde a aussi ajouté, car il faut dire, Anatole Tomczak, que le roman a eu des suppressions que vous évoquiez, mais il a aussi fait des ajouts. Il a ajouté sept chapitres, donc six chapitres. Il a été très très modifié, et il a ajouté en particulier la célèbre liste de sentences esthétiques au début, et par exemple révéler l'art et cacher l'artiste est le but de l'art. Je crois qu'il serait choqué que on associe ainsi, comme nous le faisons tous les deux, sa vie à son œuvre.
Oui, absolument. Et d'ailleurs que nous essayons aussi d'en tirer des leçons.
Depuis qu'Oscar a publié Dorian Gray, plus personne ne veut nous parler. C'est une lettre de sa femme Constance. Un critique a dénombré 216 attaques contre le roman quand il a paru. Et c'est une chose assez frappante, c'est que la célébrité de Wilde, car Wilde était célèbre très jeune et qui s'était faite en quelque sorte sur le cirque jusque-là, parce qu'il avait fait une tournée de conférences aux États-Unis un peu tapageuse, il était devenu une célébrité, mais au fond il n'avait rien fait, c'est-à-dire il était vraiment une célébrité puisque les célébrités ne font rien. On dirait que c'est passé à la raillerie la plus violente dès qu'il est passé à la littérature, c'est-à-dire qu'il est passé en acte, et tout ça pour une seule raison, c'est le mépris envers l'homosexualité. On le voyait à l'exposition du Petit Palais il y a 2 ans sur Oscar Wilde, le nombre de caricatures qui sont sorties en ville, la ville de Londres, au moment où le roman apparaît, qui sont positivement homophobes, est effroyable.
Terrible, et montre bien le climat de l'époque qui était extrêmement tendu, et d'ailleurs c'est une des raisons de pourquoi Oscar Wilde en particulier, évidemment parce que, comme d'ailleurs vous l'avez vous-même souvent dit, déjà parce qu'il avait beaucoup de talent, mais aussi parce qu'il y avait un contexte particulier qui était extrêmement tendu autour des questions de sexualité et d'homosexualité en général. Par exemple, dans les critiques auxquelles vous faisiez référence des journaux à l'époque, il y en a une qui dit que le portrait de Dorian Gray Wilde n'est bon qu'à écrire des histoires pour les petits télégraphistes, faisant référence à un scandale qui avait éclaté quelques années plus tôt, un an plus tôt d'ailleurs avant la parution, où lords et des officiers allaient se payer les services de petits télégraphistes dans un bordel de la rue de Cleveland.
Et très probablement un fils de la reine Victoria.
C'est avec ça, le duc de Clarence, petit-fils effectivement de la reine Victoria.
Qu'est-ce qui a été ajouté par Wilde dans les 6 chapitres ? On voit qu'il a supprimé donc les allusions plus ouvertement homosexuelles. Oui. Qu'est-ce qu'il a ajouté?
Il y a trois choses en fait, et ces trois choses, en tout cas, toutes contribuent à la même chose, c'est-à-dire à déplacer un peu le centre du roman, à détourner, si je puis dire, l'attention du centre du roman dont Wilde cherchait absolument à un petit peu adoucir la teneur dangereuse, vu les critiques dont il était la victime. Il y a alors notamment deux chapitres qui tentent à donner plus de parole à Lord Henry, ce personnage où là c'est tout le Wilde, brillant auteur de théâtre. Comme ça, Silver Fork Fiction, qui effectivement est là et qu'on adore. Et il y a aussi un chapitre qui est la plus hommage à Dickens, et parce que Dickens a forcément de meilleur, c'est la partie un peu mélodramatique dans Scène de genre dans la famille de Sybil Vane, où on rencontre donc sa mère et son frère. Et puis le personnage donc du frère de Sybil Vane, James Vane, auquel vous faisiez référence, qui n'est absolument pas présent donc dans la première version et qui pourtant a au moins 5 chapitres à lui, puisqu'il sert à la fin. Donc là, troisième effet de ces ajouts de chapitres, il sert à déjà augmenter la charge un peu tragique et mélodramatique du roman, et puis surtout par effet de contraste, à rendre Dorian encore plus directement et uniment monstrueux, alors que lui, James Vane, est le gentil justicier qui va effectivement arrêter l'horrible monstre Dorian, et dont on est soulagé à la fin que, ah mon Dieu, il meurt tellement il est terrible.
Vous venez de citer Dickens et son penchant mélodramatique. Il me revient un mot très amusant de Wilde à ce sujet, qui est « il faudrait avoir un cœur de... » Il parle de la petite Nell, qui est un personnage fameux de Dickens, et Wilde a dit « il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas lire la mort de la petite Nell sans éclater de rire. » L'œuvre de Basil Hallward a changé la vie de Dorian Gray, et l'œuvre de Wilde décrivant la vie de Dorian Gray a changé sa vie, la sienne propre, puisque c'est à cause de ce roman que l'affreux Alfred Douglas a fait la connaissance de Wilde.
Oui, il l'avait lu 9 fois, 11 fois. Il était absolument fou de ce roman, et donc fou de son auteur, et qu'il a arrosé de lettres. Il voulait absolument le rencontrer pour lui dire toute son admiration. Et d'ailleurs, ce souvenir l'a pas tellement gêné quand ensuite, des années plus tard, il ira répéter partout que c'était le vilain Wilde qui était venu corrompre le virginal chérubin qu'il était.
Est-ce que, Anatole Tomczak, nous ne sommes pas en train de donner raison aux avocats de la partie adverse au moment du procès Wilde, qui se sont servis du portrait de Dorian Gray en le traitant de roman sodomite, et ce qu'il a beaucoup contesté, et nous sommes en train de leur donner raison?
Il faut noter que le portrait d'Dorian Gray a surtout servi lors du premier procès, donc en fait qui est paradoxalement le procès que Wilde avait lui-même intenté, poussé d'ailleurs par effectivement le vilain Lord Alfred Douglas.
Enfin, pas vraiment, oui, enfin poussé parce que son père était venu embêter Oscar Wilde.
Oui,
enfin,
il voilà, il essayait en quelque sorte aussi d'utiliser ça comme arme contre son propre père. Il voulait bien embêter son père, si je puis dire, et puis c'était l'occasion et c'est donc effectivement l'avocat donc du père de Douglas, le marquis de Queensberry, qui a célèbrement, dans des minutes d'ailleurs de procès qui sont restées, utilisé et fait toute une analyse littéraire et morale en tout cas du portrait de Dorian Gray dans sa version magazine, qu'il justement s'employait à dire à quel point elle était plus scandaleuse que la version ensuite parue en volume. Lors des deux procès suivants, qui sont les portraits de la couronne contre Wilde pour gross indecency, pour outrage aux mœurs. Là, au contraire, les deux juges des deux procès ont plutôt eu tendance à demander au jury de faire abstraction de ce livre et de se concentrer sur les faits qui étaient de toute façon déjà tellement accumulés par les avocats du marquis de Queensberry pour à charge contre Wilde et ses pratiques impures, que voilà, ça suffisait largement à faire tomber Wilde.
Anatole Tomczak, que vous a appris le personnage de Dorian Gray?
Je crois qu'il m'a malheureusement pas appris les leçons que qu'il aurait dû m'apprendre, puisque ensuite, après avoir lu le portrait de Dorian Gray, j'ai très souvent continué à tomber amoureux des Dorian Gray. Donc je dirais peut-être que rétrospectivement, la leçon du portrait de Dorian Gray est qu'on ne prend pas les mises en garde dans la littérature, même quand cette littérature est très bonne.
Ouais, il vous approuve.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Pierre Monteil. Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay pour sa nouvelle émission sur la bande dessinée.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue. c'est